Et ce matin, mais vous êtes pris avec moi. Alors voilà, qui aime la science dans ce lieu? Oui, ah, bon, enfin, j'ai des adeptes. Et soyez, si vous n'aimez pas la science, soyez au moins assurés, il n'y a pas d'examen. Alors, ah, il n'y a pas d'examen, on va y aller tranquillement. Mais juste avant de débuter, j'ai emmené avec moi des livres. J'ai deux livres que j'ai écrit un livre durant la pandémie qui s'appelle Espoir. Quand la pandémie s'est déclenchée, j'étais au Congo, Kinshasa, et je suis rentrée par un des derniers vols qui rentrait sur Montréal. Et c'était presque apocalyptique dans les aéroports. Et c'est comme le Seigneur, même avant la pandémie, m'avait donné cette pensée, les gens vont avoir besoin d'espoir. On avait besoin d'espoir avant la pandémie, on a besoin pendant et on va en avoir encore besoin après la pandémie. Alors, j'aimerais l'offrir à quelqu'un et ce livre-là se termine par des histoires d'espoir. Est-ce que quelqu'un, c'était sa fête ce mois-ci? Allons-y, pas cette année, ce mois-ci. Qui est né à part mon mari? Mon mari a fêté 60 ans, 21 septembre. Alors, je te l'offre, chérie. Tu as besoin d'espoir. Non, je fais une blague. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, vous êtes né en septembre? Au mois de septembre. Qui est sûr que oui, qui? Soyez pas gênés. C'est la fête. Ah ben octobre, j'y vais pour octobre en avance. Bon, ben, tu l'as déjà. Bon, ben écoutez, je vous l'ai emmené le chercher. Je peux pas bouger avec pas de masque. Je vous laisse ça ici. Et j'ai aussi emmené un livre sur la science et la foi. Et j'aimerais le frère, est-ce que quelqu'un, vous travaillez dans le domaine de la santé ou un étudiant, un jeune étudiant, ici là-bas, là, un jeune étudiant à côté, ton ami à côté avec le petit capuchon là. Oui, bien, je t'offre le livre « Science » à un petit jeune comme ça, ça a besoin d'entendre parler de science et de foi. Tiens, tu le liras. Si tu ne l'aimes pas, tu le donneras à ton ami. Alors, c'est un plaisir vraiment, comme j'ai dit, d'être avec vous ce matin. Élise m'a présenté un petit peu et je vais commencer avec une des premières photos. Si on peut juste me suivre sur le PowerPoint, j'ai appelé ça effectivement le message « Science et foi, est-ce que c'est possible de concilier la science et la foi? » Et juste en commençant, j'aimerais juste me présenter parce que si tu mets la prochaine diapositive, alors peut-être qu'il y en a que vous me connaissez comme pasteur, ça fait maintenant 20 ans que je sers le Seigneur à temps plein. Mais avant ça, j'étais une scientifique. Faites pas le calcul là dans votre. J'ai commencé très jeune à suivre à servir. J'en vois qui calculent, mais avant d'être pasteur à temps plein, j'étais une scientifique de formation. Alors je sais pas si vous voyez la photo ici à gauche. Je suis au Boulogne. J'ai fait une maîtrise en océanographie, donc le beau fleuve Saint-Laurent, je le connais bien. Moi, je viens de Rimouski, cette petite ville-là, oui. Et puis, j'ai étudié à l'Université du Québec à Rimouski. J'ai fait aussi des études de chimiste. Je suis une chimiste à la base. J'ai fait par la suite un doctorat en biochimie, un post-doctorat en biologie moléculaire. Et pour finalement, à travers ces études-là, j'ai obtenu la médaille du gouverneur général pour la qualité de mon dossier académique. Pourquoi je dis ça? Pas pour que vous me trouviez très intelligente et impressionnante ce matin. Je le sais que c'est déjà le cas, là, mais même avant ça, juste pour dire que lorsque on met Dieu dans notre vie, c'est possible, c'est un témoignage de dire nous pouvons avoir une foi qui est crédible, qui est rationnelle, qui est intelligente. Et moi, il y a une portion de ma vie où je voudrais me lever. Des fois, on arrive à la salle à café, puis il y a des gens qui vont avoir écouté l'émission Découverte, puis là, ils vont vous dire quelque chose, puis là, vous êtes là, puis ils disent, ben toi, tu crois pas à ça, hein, t'es croyant. C'est comme si l'idée, le fait, est-ce que ça vous est arrivé de vous faire un peu insulter pour votre foi? Dites-moi que je suis pas la seule ici. Je veux vraiment, j'aimerais ça qu'à partir, lorsqu'on va quitter aujourd'hui, je sais qu'on est fiers de connaître Jésus, mais de voir autour de nous que c'est possible que des gens qui ont fait des hautes études, des gens d'impact, des scientifiques d'impact, qui sont des croyants. Mais malheureusement, si on est honnête, dans la société, il y a beaucoup de stéréotypes, de préjugés, de mythes qui sont associés à la foi. Si tu mets la prochaine diapositive, on regarde, c'est fascinant. Ça, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était Richard Martineau qui a fait un article dans un journal que vous connaissez. Et puis, il a écrit « La foi comme esclavage ». Et moi, ça m'en prenait pas plus pour me stimuler ma foi, parce que j'ai voulu décrier cette pensée, pas juste moi, mais beaucoup de scientifiques croyants à travers le monde, décrier la pensée que la foi, c'est l'esclavage, que la foi, c'est pour les simples, que la foi, c'est une béquille. Et vous savez, lorsqu'on va, ça peut être au niveau séculier, à votre travail, au collège, au cégep, à l'université, c'est comme la pensée qu'on entend, et si tu mets la prochaine diapositive, c'est comme si le christianisme, avoir la foi, c'est quelque chose qui est irrationnel. C'est quelque chose, je dis, assez basé sur une foi naïve qui est simple, sur des fables. C'est la foi aveugle. Est-ce que vous avez déjà, on vous a déjà dit ça? Et c'est comme si, par opposition, hein, des fois on oppose des concepts, et c'est comme si par opposition, l'athéisme, par défaut, ça c'était rationnel, c'était scientifique, c'était prouvé et c'était indéniable. Et c'est complètement faux. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous apporter ce matin. J'aimerais le dire, comme j'ai dit d'entrée de jeu, que la foi, c'est possible d'avoir une foi qui est rationnelle, d'avoir une foi qui est intelligente et d'avoir une foi qui est crédible. Alors, dis, lève ta main, tu ne peux pas parler à ton voisin avec le fameux masque, mais lève ta main si tu dis, oui, Stéphanie, moi, je crois que la foi est rationnelle, crédible et intelligente. Alors, dis à ton voisin, si c'est ton mari ou ta femme, dis que tu es pas mal intelligent. Puis si tu as des comptes à régler, dis que tu as l'air plus intelligent que tu es plus intelligent que tu as de l'air. Je fais des blagues ce matin, mais je veux. Il y a un verset de la Bible qui, moi, a été un des fondements, j'en ai plusieurs, mais un des fondements de ma vie chrétienne, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 27. Et c'est un passage qui est tout à fait, pour moi, pertinent pour les jours dans lesquels on vit. La Bible ne change pas, elle est immuable, elle est pertinente encore aujourd'hui. Et c'est un docteur de la loi, et j'aime ça parce que c'est un docteur de la loi qui est venu pour éprouver Jésus. Vous connaissez ce passage-là. Et il va dire, hein, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Et Jésus va lui répondre, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et ça dit par la suite, « Fais ceci et tu vivras. » Et j'aime le terme « tu vivras ». Quand Jésus lui dit « tu vivras », c'est le terme « zoé ». C'est pas le terme « la vie physiologique ». Si tu fais pas ça, tu vas mourir. Mais si tu aimes Dieu, de cette façon-là, tu vas avoir la vie zoé, la vie en abondance, la vie épanouie. Et souvent, on va arrêter ce verset-là parce que on va dire « faut aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre passion ». Mais le terme ici utilisé pour « de toute ta pensée », c'est en grec qui veut dire « dia noia ». Et ce terme grec-là est traduit par l'intelligence, le raisonnement, l'entendement. Et Jésus parle à un docteur de la loi puis dit « tu peux m'aimer, c'est logique de m'aimer aussi avec ton intelligence ». Et ça éveille quelque chose en moi de fantastique. Et je trouve ça tellement important d'aller plus loin pour comprendre la grandeur de Dieu à travers la science. Parce que souvent, on va penser que la science va menacer notre foi. On va penser, on a peur. Et je m'arrête un petit peu. Louis Pasteur a dit, « Un peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup nous y ramène. » Et j'aimerais vous dire que sur les bancs d'université, lorsqu'on avance dans des études supérieures, maîtrise, doctorat, post-doctorat, on se rend compte que plus on en sait, moins on en sait. Plus on découvre des choses, plus... C'est comme les poupées russes. Tu fais une découverte, oups, il y a encore quelque chose dans la poupée. Tu ouvres la poupée russe, oups, il y a encore quelque chose. Et les scientifiques de haut niveau, beaucoup d'entre eux sont loin d'être athées. Au contraire, la science les émerveille. La science est un outil qui pointe vers quelque chose, un Dieu créateur. Est-ce qu'ils mettent toujours le mot Dieu? Peut-être pas. Mais de plus en plus, l'idée d'un acte de création est à la base de beaucoup, des croyances de beaucoup de scientifiques. Et lorsqu'on regarde un scientifique comme Isaac Newton, vous connaissez Isaac Newton de nom, bien entendu, la fameuse pomme et toutes ces choses-là. Et Isaac Newton, un grand physicien, mathématicien, était un astronome, il a écrit « Le plus merveilleux système, Celui qui contient le soleil, les planètes et les comètes ne pourrait être issu que de la grande sagesse, de la souveraineté d'un être intelligent et puissant. Cet être gouverne toute chose, pas en tant qu'âme, tu sais, vous savez, mère nature ou un truc comme ça. Il gouverne toute chose, pas en tant qu'âme de ce monde, mais bien comme seigneur de tout. Et en raison de sa suprématie, il se doit d'être appelé Seigneur, Dieu, chef universel. Et j'aime le dire, amen, n'est-ce pas? Hein? J'aime le dire que de Isaac Newton, il y a beaucoup à travers l'histoire des sciences, des gens qui étaient loin d'être des athées, c'était des croyants affirmés. Blaise Pascal, qui est un mathématicien, vous savez, celui qui a dit, hein, on a tous un trou dans le cœur en forme de Dieu. C'est Blaise Pascal qui a dit ça. Grégory Mendel, qui est le père de la génétique, était un croyant affiché. Robert Boyle, le père de la chimie moderne. Vous avez Louis Pasteur, comme j'ai dit, Dr. Francis Crick, qui a découvert la structure en trois dimensions de l'ADN. Et là, vous me dites, peut-être que je vous entends penser, puis vous me dites, ah, Stéphanie, c'est tous des vieux, ça, à cette époque-là, ils croyaient tout en Dieu, tu sais. Mais effectivement, dans cette époque-là, l'idée de Dieu était plus présente. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens d'impact qui croient en Dieu. Il y a un homme qui s'appelle Francis Collins. Si le sujet vous intéresse, et j'en parle beaucoup dans mon livre sur la science, c'est un homme qui s'est converti il y a pas tant que ça dans les 20 dernières années. Et c'est un homme qui a écrit, c'est un généticien, c'est un docteur. Et vous savez, dans les dernières années, il y avait un grand projet de décoder le génome humain à travers la planète. Vous savez, on a décodé le génome humain il n'y a pas tellement d'années. Et c'est cet homme-là qui était à la tête de tous les chercheurs à travers le monde pour ce grand projet. Et cet homme-là a reçu beaucoup, beaucoup de prix prestigieux et il s'est converti à travers ses recherches de génétique. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le langage de Dieu ». Et lui, à travers toute la génétique, la beauté, la précision de l'ADN, il a découvert Dieu. Et il a écrit dans son livre, et je vous le cite, « Pour moi, cela ne fait aucun doute. Dieu est le créateur de l'univers et a établi les lois naturelles qui le gouvernent. Le réglage fin, la beauté de l'ordre de la nature font état d'un concepteur divin. C'est ma compréhension des processus biologiques qui explique mon passage de l'athéisme au christianisme. » Alors, si quelqu'un vous dit cette semaine, le mois prochain, ou dans votre famille, ou vos enfants, vos jeunes adultes, peu importe, vous dites, ouais, franchement, c'est dépassé, croire en Dieu, c'est juste, c'est les scientifiques, c'est des athées, c'est complètement faux. Et Dr. Francis Collins, avec le nouveau gouvernement qui a été élu aux États-Unis avec Joe Biden, il est le bras droit scientifique de Joe Biden aux États-Unis, et c'est un chrétien qui est engagé, qui est croyant, et qui se lève pour défendre la foi et la science. Et j'ai mis aussi une diapositive, si tu mets la prochaine diapositive, tu peux faire défiler. La prochaine diapositive, c'est où tu vas avoir un livre, c'est marqué « Le retour de Dieu ». Et de plus en plus, dans les universités, la thèse, l'hypothèse, en physique, en mathématiques, dans plusieurs universités du monde, on voit arriver, on remet en avant-plan l'hypothèse de Dieu créateur, d'un acte de création. Les scientifiques honnêtes, on va en discuter plus en détail dans quelques instants, mais les scientifiques de haut niveau, honnêtes intellectuellement, ne peuvent expliquer encore aujourd'hui l'origine de la vie, l'origine de l'univers. Et on est en train, et il y a des livres qui s'appellent « Dieu revient en force ». Pouvez-vous vous imaginer que le concept du Dieu créateur est à l'avant-plan? Dites « Amen » avec moi avant que moi j'explose, parce que je trouve ça fascinant. Moi, j'ai donné ma vie à l'âge de 15 ans et pendant des années à l'université, c'est comme « Oh, toi, t'es chrétienne ». C'était vraiment comme presque ridicule. Et de plus en plus, plus on avance avec ce qu'on est en train de vivre en pleine pandémie, le taux d'éco-anxiété, d'anxiété, de tout, la terre est ébranlée. Et je vous le dis qu'il y aura un moment où que les gens qui se disaient athées, qui disaient que c'était ridicule d'avoir la foi, vont se tourner parce que la société n'a aucune solution pour eux. Et la seule réponse, c'est Dieu Tout-Puissant, Christ mort et ressuscité. Et nous, comme croyants, on peut se lever la tête haute et on fait partie d'un groupe de gens qui croient en Dieu. Alors, ma première question pour vous, j'ai dit, est-il possible de concilier science et foi? Je dis qu'il n'y a pas d'examen, mais il y a des petites questions comme ça. Hein? C'est possible de concilier la science et la foi? Mais là, j'aimerais vous emmener un peu plus loin. Et là, vous allez dire, Stéphanie, c'est de la sémantique, tu nous poses la même question. Pas du tout. J'ai dit, c'est possible de concilier la science et la foi. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont la foi. Si je vous pose la question, est-il possible de concilier la foi, faites attention à ce que vous allez répondre, est-il possible de concilier la foi avec la science?
Oui.
OK. Vous dites oui, là?
Oui.
OK. Fait que vous allez me suivre. Attachez vos tucs, comme on dit ici. Et est-ce que c'est pas, est-ce que, si on est honnête, est-ce que les grandes découvertes scientifiques récentes peuvent menacer notre foi? Si je mets la prochaine. Je vous ai mis ça, c'est Hubble. Avec Hubble, on a eu on a découvert, on a commencé à comprendre les images qui venaient par ce télescope-là. On a commencé à comprendre comment l'univers était formé. Quelle était la grandeur de cet univers-là? Oh, le Big Bang! Vous dites oui encore? OK, ça, c'est des grandes découvertes scientifiques. Là, je vous mets à côté, ça, c'est récent. Persévérance. On a envoyé un robot sur Mars. Tout d'un coup, qui trouve des martiens. Qu'est-ce qu'on va dire, nous, comme croyants, si on a des martiens sur Mars? Oui?
J'aimerais te suggérer que par sa nature créatrice, donc extérieure à ce monde,
oui,
un auteur va créer un livre.
Oui.
Dieu, en quelque part, est extra à ce monde. Si on trouve des extraterrestres,
fine!
Whatever.
Exact! Si on trouve de la vie, c'est pas mon propos aujourd'hui, mais je vous le mets en réflexion. Si on trouve de la vie sur Mars, qui a créé la vie sur Mars? N'est-ce pas? Alors, la question n'est pas menaçante. Et c'est tellement beau de voir, effectivement, je vous assure, Dieu est tellement grand, tellement parfait, tellement puissant. Il connaît tout, hein? Il est omniscient, omnipuissant. Il n'est absolument pas surpris par aucun robot et aucun télescope. Au contraire. Et vous savez, il y a trois grandes questions encore aujourd'hui qui n'ont jamais été répondues. Et ça, c'est là qu'on va voir Dieu agir. La première grande question, c'est comment expliquer l'origine de la vie à partir de la matière non vivante? Les gens vont vous dire, et c'est pas mon propos, j'en parle beaucoup dans le livre, mais lorsqu'on parle de la théorie de l'évolution, Darwin, c'est une théorie, elle n'explique en aucun cas, de façon prouvée, l'entièreté, de la théorie de l'évolution n'a pas été prouvée complètement. Bien sûr, on va parler des principes d'adaptation. On sait que l'humanité, les espèces se sont adaptées. Mais Darwin n'a pas l'explication comment la première cellule a été créée, comment la vie est apparue sur Terre. Deuxième question qui demeure encore sans réponse, c'est la notion des lois naturelles. Vous savez, pour que l'univers a pris place, le fameux Big Bang, on va en discuter tout à l'heure, ça repose sur des lois naturelles. Je n'irai pas dans le détail qu'est-ce que c'est les lois naturelles, mais si je vous dis des lois de thermodynamique, la loi de Newton, la gravité, la loi de la conservation d'énergie, il y a des lois comme ça. Si je vous fais ça, vous savez très bien que je peux faire ça, ça c'est la gravité, je peux faire ça pendant toute l'avant-midi, ça va juste avoir mal au dos, mais le reste, ça va tomber à la même façon pendant toute l'avant-midi. Et vous comprenez que toutes ces lois naturelles-là, elles étaient au commencement, avant qu'on parle du Big Bang. Le Big Bang, c'est un modèle, mais si la gravité n'était pas là, toutes ces forces électromagnétiques, c'est pas important les détails entre les électrons, toutes ces lois-là qu'on ne voit pas, personne ne peut. Et les scientifiques peuvent les décrire de façon mathématique. On peut les comprendre, les raisonner, mais on ne peut pas savoir d'où viennent les lois naturelles. Et c'est fascinant parce qu'on a posé la question, comment la nature a-t-elle été montée et emballée de cette façon? Et là, je vais vous faire quelque chose. C'est une illustration qui est peut-être un peu faible, mais c'est difficile à montrer. Qui a déjà acheté un meuble chez IKEA?
Yes.
OK. Qui a déjà monté un meuble de IKEA?
Oui.
C'est pénible, hein?
Oui.
OK. C'est l'univers, en fait, tous les éléments de l'univers, c'est comme tout ce que vous avez dans votre boîte IKEA. Vous savez très bien que si vous n'avez pas le plan, vous n'êtes pas capable de la monter, votre bibliothèque IKEA. Et j'épargne les mots qui vont autour de ça, qu'on essaie de la monter, la bibliothèque IKEA. Et c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les lois naturelles, c'est le plan que Dieu a donné avant la création, pour être capable que l'univers prenne place. Mais d'où vient le plan? D'où viennent les lois naturelles? Les scientifiques peuvent donner des équations mathématiques, mais personne ne peut expliquer d'où elles viennent. Et à cette question, deux scientifiques ont répondu, Newton et Einstein, qui ont travaillé sur ces lois naturelles, ils ont répondu, d'où viennent ces lois? Ce sont l'intelligence de Dieu. C'est beau, hein? Ah, qui a dit amen? C'est beau, hein? Alors, quelqu'un vous dit, ah, les lois naturelles, et... Non. Les lois naturelles, c'est l'intelligence de Dieu. Et Albert Einstein a dit aussi, j'aime cette... Des fois, on a souvent entendu des allusions à ça, mais cette citation-là de lui, je l'aime beaucoup. C'est écrit, il a dit, l'idée que l'ordre et la précision de l'univers dans ses aspects innombrables soient le résultat d'un hasard aveugle est aussi crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient par terre dans l'ordre du dictionnaire. N'est-ce pas que c'est absolument difficile? Et j'aime aussi cette citation d'Albert Einstein là qui a dit « Le hasard, c'est... » Parce que tout le monde en dira, c'est l'effet du hasard, tout ce qu'on voit. Et Einstein a dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. » Amen. Et c'est exactement dans votre vie personnelle, les lois naturelles comme les lois spirituelles. Peut-être quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Il n'y a pas de hasard avec Dieu dans vos vies. Si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard. C'est Dieu qui se promène incognito. Et il a aussi dit, Dieu ne joue pas au dé. Il est souverain. Hein, il est maître de tout. Il est maître du temps, de l'espace. Il est le créateur de tout. Et Stephen Hawking, qui est un physicien cosmologue qui est bien connu, qui était lui, il se disait athée. Et il est décédé en 2018. Et lui aussi a étudié tous ces phénomènes-là de lois naturelles et d'un astronome. Et il a écrit, on est envahi, et ce n'est pas un chrétien, il dit, on est envahi par une énorme impression d'ordre. Plus nous découvrons l'univers, plus nous découvrons qu'il est gouverné par des lois rationnelles. Et la question demeure, pourquoi l'univers existe-t-il alors? Si vous le voulez, et je pense que vous allez dire amen, vous pouvez déterminer que Dieu est la réponse à cette question. Et devant les plus grands scientifiques, s'ils sont honnêtes, je vous ai dit un peu science, pas des fois les professeurs de secondaire, des fois qui essaient de... Un peu de science m'éloigne de Dieu, mais beaucoup m'y ramène. Mais devant ces grandes lois naturelles, la question de Dieu demeure encore. Et dans Romains au chapitre 1, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit au verset 20? Ça dit, « La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. » Les lois naturelles sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Et c'est exactement ce que nous allons regarder ce matin, ce qu'il a fait. Et j'aimerais vous emmener un peu plus loin. On va parler, vous m'avez dit que les grandes découvertes scientifiques ne menaçaient pas votre foi. Amen. Et si je posais, est-ce qu'il est possible d'être un croyant et de croire au Big Bang?
Il y a moyen?
OK, là, je m'en viens bien. Il y a moyen? Et je vous dis, il n'y a pas de fausse et bonne réponse dans ça. Je veux juste commencer en faisant la différence. Il est possible de croire au Big Bang et ne pas croire à l'évolution. La théorie de l'évolution et le Big Bang, c'est deux choses complètement différentes. La théorie de l'évolution est utilisée par les scientifiques pour essayer de tenter d'écrire l'apparition de la vie et l'évolution des espèces. Deux choses séparées. Le Big Bang est un modèle, juste un modèle, qui sert à décrire comment l'univers est apparu. Je dis un modèle parce qu'il n'en donne pas la cause. Il ne fait, c'est comme si je m'assois puis je regarde la chaise, je me dis, OK, la chaise, elle a un dossier gris, je crois qu'elle a 4 pattes grises, tu vois. Je commence à définir les choses, mais je ne dis pas qui a construit la chaise. Hein? 2 mètres, excusez-moi, je respecte pas les, mon mari me dit 2 mètres. J'ai de la misère avec ça, moi, 2 mètres. Je suis tellement quelqu'un qui donne des bons. Mais enfin, je vais rester ici. OK, 2 mètres. Bon, OK. Alors, le Big Bang, c'est un modèle cosmologique dont se servent les scientifiques pour décrire l'origine de l'univers. Et c'est je vais un peu plus loin. Avant d'être pour ou contre quelque chose, je vais rester ici. Avant d'être pour ou contre quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Et tu sais, des fois, pour beaucoup d'entre nous, le Big Bang, ça fait longtemps, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est-tu un truc de musique? Ding, 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 c'est pas là. C'est comment on appelle ça, là, les musiciens? C'est Big Ben, c'est pas la même chose, ça. Big Bang, c'est cette théorie scientifique-là. Et c'est difficile de vous poser une question. Vous savez, c'est entre nous, c'est sympathique. Mais là, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que c'est vraiment le Big Bang? C'est difficile de dire, je suis pour ou je suis contre, si je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est si on fait longtemps qu'on n'a pas étudié ça, ça peut être un peu compliqué. Je vous fais ça simple. L'idée, c'est pas que vous sortiez d'ici en sachant c'est quoi la théorie du Big Bang. L'idée, et c'est là que vous allez voir où je m'en vais, c'est que cette théorie-là qu'on a découvert pendant pas si longtemps que ça, confirme ce que la Bible avait écrit il y a des milliers d'années dans le livre de Genèse. Dans la Genèse. Et c'est pour ça que, pour moi, comme scientifique, ou bien quand on parle d'apologétique, lorsque je défends ma foi, je ne me mets rarement, à moins que ça touche vraiment Dieu de front, mais en opposition avec les théories scientifiques. Souvent, je vais discuter de science et je vais aller sur le même chemin. On va voir qu'est-ce que c'est le Big Bang. Ça décrit l'univers. Ça va nous dire que l'univers a eu un commencement, qu'il y a eu une source d'énergie qui était au commencement de l'univers, et que l'univers commençait à devenir en expansion. Et au lieu de dire, ben moi, je ne crois pas à ça, le Big Bang, puis là, le gars, il va essayer de m'expliquer, ou la fille, qu'est-ce que c'est, après quelques discussions, si vous avez des athées autour de vous, ben moi, je leur dis, OK, si le Big Bang est un modèle qui est utilisé en science, qui décrit vraiment les événements, qui est à l'origine du commencement de l'univers? C'est-tu? Et c'est pour ça que c'est pas les découvertes scientifiques menacent pas notre foi, parce que elles décrivent, comme je vous ai expliqué, par exemple la chaise, mais elles donnent pas qui est au commencement de tout ça. Et c'est là qu'on peut arriver comme croyant et leur dire, as-tu pensé, est-il possible que Dieu soit derrière ça? Et là les gens repartent et disent, bon, ça fait du sens son truc. Et ça fait plus que du sens, parce que plus ça va, plus je vous dis, Dieu revient en avant-plan. Je vous fais ça rapidement. Qu'est-ce que c'est la théorie du Big Bang? Juste pour qu'on va faire tout à l'heure, en quelques instants, parce que je veux respecter le temps qui m'est alloué, mais on va faire un parallèle entre cette théorie-là et qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible. Le Big Bang, ça dit, selon les scientifiques, il a pris place il y a cela quelques milliards d'années. Hein. L'univers sera en expansion et elle a 13,5 milliards d'années. Et en quelques instants, ils décrivent comme Big Bang, en quelques instants, une puissante et inimaginable source d'énergie créa ou se transforma en 2 gaz, pas important, 2 gaz qui s'appellent l'hydrogène et l'hélium. Troisièmement, ces 2 gaz sont à l'origine de l'univers et vont constituer l'univers. Quatrièmement, c'est la fin, après ça, j'enlève toute la théorie, sous les conditions de température du cosmos et sous l'action de la force gravitationnelle, mes fameuses lois naturelles, ces gaz vont s'assembler, former et engendrer les étoiles, les planètes et les galaxies. Si on met la prochaine, regardez. En fait, l'histoire, selon la science, l'origine de l'univers, c'est au commencement. Si vous regardez à mon extrême gauche, à votre extrême gauche, il y a eu au commencement, bang, une source d'énergie tellement puissante que là, il y a 2 gaz qui se sont créés. C'est ce que je viens de vous dire. De l'hélium et de l'hydrogène. Et ça, c'est comme ça, avant qu'il y ait la planète Terre ou les étoiles, ce n'était que des gaz. Et bien sûr, à travers le temps, on parle de milliards, milliards d'années, à travers le temps, avec les lois naturelles, tout ça, ça a évolué, hein, ça a fait des électrons, des protons, et nanana, pour devenir de la matière qui a formé les étoiles et les planètes que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est fascinant parce que si on s'arrête un instant, Les scientifiques nous décrivent qu'il y a eu un commencement, ça a commencé par bang, une explosion d'énergie pas possible. Si je vous pose la question ce matin, pensez, qu'est-ce que une grosse explosion d'énergie, à quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce qu'on a connu sur la Terre que ça a fait une explosion pas possible? Nucléaire, Hiroshima, on est exact. Si on met la prochaine diapositive, ici, ça c'est Hiroshima. On voit que c'est à peu près ce qu'on peut s'imaginer de plus puissant. Mais bien sûr que la création de l'univers, c'était des milliards et des milliards et des milliards fois plus puissant. Mais après Hiroshima, si tu mets la prochaine diapositive, regarde. Hiroshima est la plus grande explosion qu'on peut s'imaginer. Mais quand cette bombe-là a éclaté, ça aurait été fou de penser que tout serait resté ordonné. Hiroshima a engendré quoi? Le désordre, le chaos, la mort, la destruction. C'est ça une explosion, hein? C'est pas organisé, c'est bang! Ce qui est fascinant, c'est que Big Bang dit, ça commence avec une explosion d'énergie. Mais ce qui est fou, c'est que cette explosion-là, à cause des lois naturelles, a donné quelque chose qui était parfaitement régulé. Parfait, parfait, parfait. Les étoiles au bon endroit, les planètes au bon endroit. Et si on regarde, c'est ce qu'on connaît, mais si on regarde dans notre système solaire, notre Terre, elle est parfaitement au bon endroit avec le Soleil. Et ça, vous le savez, beaucoup de gens vont... C'est facile à décrire. Si la Terre était un petit peu, même pas un millimètre plus près du Soleil, et ça, c'est issu d'une explosion, mais sa situation est tellement parfaite qu'un petit peu plus près du Soleil, on brûle, il n'y a pas de vie. Un petit peu plus loin, on est congelé, il n'y a pas de vie. La vitesse de rotation, toutes ces choses-là, que je ne peux pas aller dans le détail, il y a au moins 53 paramètres juste pour la Terre, tellement parfait que si ce n'était pas comme ça, on ne serait pas ici aujourd'hui. Pensez-y un instant. Le Big Bang me menace-t-il? Absolument pas. Le Big Bang est en train de me dire que, wow, l'explosion qui a pris, ça prenait quelqu'un de drôlement fort, intelligent, puissant pour faire quelque chose d'aussi parfait. Et là, on pourrait aller dans le détail, hein, les électrons, les protons, tout ça, il y a des infinités de perfections dans ça. Et vous savez, il faut être plus puissant que ce que l'on crée. Vous pouvez vous imaginer, si vous avez du temps, allez sur YouTube aujourd'hui, j'ai pas eu le temps, commencez à regarder, comparer notre soleil, le soleil qui est notre étoile mère à laquelle on tourne. Il est puissant, mais c'est rien à côté des autres étoiles. Il y a des centaines et des centaines d'étoiles plus grosses, plus puissantes. Imaginez l'énergie que ça prend pour créer ça. OK. Et la grandeur, lorsqu'on parle de système, nous, on va regarder plus en détail à la fin. Je vais juste vous emmener dans le PowerPoint de la diapositive qui parle de Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2. J'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la Bible dit. Le commencement. Tout ce que je viens de vous décrire là, le Big Bang, assez simplement, c'est beaucoup plus complexe, mais vous voyez un peu l'idée. Dans Genèse 1, le premier livre de la Bible, deux versets, on a quatre éléments que les scientifiques ont juste découvert des années plus tard. Comment, on croit que c'est Moïse l'auteur de la Genèse, comment Moïse a pu écrire ce texte? Là, je vous l'amène. Regarde, on va le lire à la lumière de ce que je viens de vous expliquer. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2, ça dit, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Vous savez que pendant des années, et peut-être encore aujourd'hui, mais ça c'est une autre histoire, pendant des années, les gens décrivaient la Terre comme plate. Les navigateurs, ils pensaient qu'elle allait au bout de la Terre puis qu'elle allait tomber. On ne savait pas que la Terre était ronde. Comment Moïse a pu savoir que la Terre était informe et vide? Comment il a pu la visualiser? Comment il a pu décrire? Ça, c'est fou. On va faire quelques parallèles avant de quitter. La science dit que la théorie du Big Bang affirme que l'origine de l'univers a eu un commencement nettement défini à un moment donné. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Savez-vous que c'est fascinant? Parce que pendant des années, et ça s'est obstiné dans les universités, à l'époque d'Einstein, tout ça, tout le monde, les scientifiques étaient convaincus que l'univers était infini, que l'univers n'avait jamais eu de commencement, que l'univers était toujours l'univers. Et c'est un chrétien, un Belge, un chamoine qui est arrivé et il y a eu des discussions, puis il a dit, avec ses, il a fait des expériences et il a affirmé que l'univers a eu un commencement. Et Einstein et toutes ces gars-là, ils se sont obstinés, puis on dit, toi, c'est parce que tu es croyant que tu dis que c'est trop inspiré de la Bible, parce qu'à cette époque-là, la religion, la Bible, c'était beaucoup relié ensemble. Et finalement, bien des années plus tard, on a découvert que l'univers a un commencement. Mais comment, pourquoi dans Genèse, c'est écrit au commencement? Ça veut dire que la Bible, Dieu a inspiré Moïse, parce que Dieu, il est l'auteur de sa création, pour pouvoir dire ça. Deuxième comparaison, j'arrive vitement à la fin. Si la science dit que la théorie du Big Bang affirme l'origine de l'univers provient d'une source incommensurable d'énergie, qui s'est transformée en nuage de gaz. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Dieu est la source incommensurable d'énergie. Troisièmement, la science dit, le Big Bang affirme que l'origine des étoiles qui constituent les milliers de galaxies, les cieux, ainsi de suite, l'origine des planètes dont la Terre provient du nuage de gaz. C'est ce que la théorie du Big Bang vous a dit. À cette explosion-là, un commencement, une explosion des gaz, de ces gaz-là, c'est devenu la planète Terre. Et la Bible dit qu'au commencement, les cieux et la Terre ont été créés. Moïse a déclaré, avant le Big Bang, que les cieux et la Terre ont été créés en même temps. Et c'est fascinant parce qu'il va dire que la Terre, elle était informe et vide. Et informe et vide, hein, le terme utilisé en hébreu, c'est tohu bohu. C'était ce nuage de gaz qui était complètement désorganisé. Et avec le temps, c'est devenu la Terre. Et je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi. Ça n'a pas de l'air, hein, vous regardez comme ça. Ou je m'emballe en ma science. Mais je ne sais pas si vous comprenez comment ce modèle scientifique-là ne fait que énoncer ce que Dieu avait révélé. Bien sûr, la Bible n'est pas un manuel d'astrophysique. Bien sûr que la Bible utilise des mots, n'utilise pas des mots scientifiques. Mais la Bible, Moïse savait déjà qu'il y avait un commencement à l'univers. Moïse, inspiré par Dieu, savait déjà que Dieu était créateur. Savait déjà qu'on partait de quelque chose qui était informe et vide. Et c'est fascinant. Vous savez, si vous lisez Genèse avec toutes les grands, vous savez, toute la géologie, la tectonique des plaques, quand il a séparé les eaux de la terre, c'est fascinant. C'est ce que les scientifiques ont décrit. Il y a 26 phénomènes décrits seulement dans le premier chapitre de Genèse qui correspond exactement à ce que les scientifiques ont découvert en physique, en géologie et en astrophysique. Si c'est pas ça vous impressionne pas, mais moi, ça me dit que mon Dieu est grand et qu'il se révèle encore aujourd'hui. Et ça me fait du bien de voir ça. Et je suis pas la seule. Dr. Josh Greenstein, qui est un astronome, a écrit, en passant en revue tous les faits, une pensée surgit immanquablement. Il doit y avoir un agent surnaturel ou plutôt un agent qui entre en jeu. Est-il possible que soudainement, sans avoir l'intention, nous soyons, en parlant du Big Bang, nous soyons tombés sur la preuve scientifique de l'existence d'un être suprême? Serait-ce son intervention divine qui aurait modelé de façon si providentielle le cosmos dans notre intérêt? Et je dis amen et amen. Et juste en terminant, lorsqu'on parle de... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a un 25 sous ici, pas loin. Je voudrais terminer et j'aimerais qu'on puisse prier parce que lorsqu'on regarde tout ça, ça fait beaucoup de... Un petit 25 cents. Je peux m'approcher de toi. Tiens, ou n'importe quoi, un petit 1$. C'est pas grave, les proportions sont... Voilà. J'aimerais ça qu'on... Tu sais, lorsqu'on parle de toutes ces grandes choses, juste vous faire réaliser, on parle de ça, mais c'est difficile de mettre des images sur tout ça. Et moi, je voudrais juste m'arrêter en terminant ce dimanche, juste qu'on réalise ensemble la grandeur de ce Dieu-là, la grandeur de cette création-là. Et lorsqu'on met des mots là-dessus, ça devient étrange. Mais si tu mets la diapositive, la prochaine, juste pour vous donner une idée, ça, c'est notre galaxie. Nous faisons partie d'une galaxie près de chez vous, là. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. C'est là qu'on habite, si je ne vous avais pas. Et regardez le diamètre de la galaxie, c'est 9,10 à la 17, c'est-à-dire, comme vous voyez, 17 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, kilomètres. Ça, c'est la taille de notre galaxie. Et si tu mets la prochaine diapositive, c'est fascinant parce que pendant des années, vous avez le centre de la galaxie, ce qui est un peu jaune. Pendant des années, tout le monde pensait que nous étions le centre de l'univers. Vous savez, le centre, le milieu là, que c'était là, la Terre qui était le centre de l'univers. Et en fait, si vous regardez en dessous, dans la galaxie, notre système solaire, vous voyez, j'ai marqué soleil, des petites flèches, allez au bout de la flèche, et ça, c'est la planète Terre. Et dans ça, c'est pas Charlevoix, là, c'est la planète Terre. Et des fois, on pensait qu'on était le centre de l'univers, mais tu as ton voisin, ta voisine, pour la réveiller ce matin, dis-y, hey, t'es pas le centre de l'univers. Si tu pensais que t'étais le centre de l'univers, et ça prend des proportions qui est fascinant. Et peut-être pour mettre un peu des chiffres par rapport à ça, si le système solaire, nous, fait partie d'un système solaire, c'est-à-dire que notre étoile, c'est le soleil, puis notre Terre, on tourne autour du soleil. Pour vous montrer les dimensions, ça, c'est comme si c'était notre système solaire. C'est pas très gros, hein? Et notre système, nous, on fait partie d'un canard, mettons, sur la pointe du bec du canard, ça serait la planète Terre. On est d'accord, c'est une poussière. Et notre système solaire est dans une galaxie que j'ai dit qui s'appelle la Voie lactée. Pour vous donner les proportions, imaginez toute l'Amérique, le Canada au complet, l'Amérique du Nord, toute l'Amérique au complet, OK? Ça représenterait l'univers, la galaxie, pardon, pas l'univers, la galaxie, la Voie lactée. Imaginez tout ça, là, mettez les dimensions, tout ça. Et nous, notre système solaire, c'est ça, dans toute cette... Vous me suivez? Toute cette Amérique-là. Et nous, vous, moi, on est un petit bout sur le point du bec du canard, puis Charlevoix, ben j'ose pas le dire comment c'est. Et je sais pas si ça vous fait le même effet à vous qu'à moi, mais il y a une espèce de grandeur, de dire, je suis vraiment rien. C'est pour ça que dans les psaumes, c'est écrit à qui suis-je, pour que qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. Parce que notre galaxie est constitué de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. On est d'accord? Et notre univers est constitué, si tu mets la prochaine... Est-ce que vous voyez... Non, recule, s'il te plaît. Celle que tu avais mis d'avant. Non, avant. Voilà, ça ici. Si vous regardez là-bas, ce n'est pas... Ce que vous voyez là-dessus, ce n'est pas des étoiles. L'univers est constitué de milliards et de milliards et de milliards de galaxies qui sont constituées de milliards et de milliards et de milliards d'étoiles. Et pour ne pas vous étourdir, on pense qu'il existe en plus des milliards et des milliards d'univers en parallèle. Et il y a une grandeur pas possible. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu t'y arrêtes, tu dis, qui suis-je, moi, pour que Dieu s'intéresse à moi? En fait, l'idée ce matin, c'est pas que vous partiez en disant, waouh, je suis vraiment une poussière, moi, dans l'univers. Pouf! C'est plutôt l'inverse. C'est que tu puisses dire, wow, ce grand Dieu créateur de l'univers me connaît personnellement par mon nom. Il sait, il a dit dans les psaumes, je connais chacun de tes cheveux. Je connais quand tu te lèves, je connais quand tu t'assois, je connais... Vous savez, c'est comme si vous avez Google Maps, le Google Earth. On peut tout voir maintenant, partout sur la planète. Mais Dieu, il a son Google dans le ciel, et puis... Il sait exactement aujourd'hui ce que Luc vit, ce que Élise vit, cette pensée d'un Dieu si puissant et si personnel. Alors que j'arrive à la fin, si tu mets la prochaine, il y a une des galaxies la plus éloignée qu'on a trouvée. Elle s'appelle la galaxie du tourbillon. Il y en a encore maintenant des plus loin. Et dans la galaxie du tourbillon, ils ont pris des images, le fameux télescope Hubble, et les images qui ont été rapportées, et c'était un jeu d'optique. Mais lorsque tu regardes le plus loin de l'univers en ce moment, si tu mets la prochaine, c'est fascinant. Lorsqu'on regarde les images qui sont revenues du télescope Hubble, on pouvait voir un jeu d'optique et c'était la croix. Voyez-vous la croix au centre? Et quand j'ai vu ça, vous pouvez aller les voir, les photos, c'est sur le site de la NASA, et j'étais frappée. Le Saint-Esprit me disait, et j'espère qu'il vous le dit ce matin, le plus loin que tu peux être, le plus loin que tu peux regarder, tu vas toujours trouver la croix. Dieu est un Dieu personnel. Est un Dieu personnel. Il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Jésus était 100% Dieu. Il est marché sur la terre. Il est devenu 100% humain. La Bible dit qu'il était au commencement avec Dieu, qu'il n'a pas regardé être arraché libre. Le texte le dit dans Philippiens, Jésus était d'origine, de condition divine. Philippiens 2, chapitre 6 à 8, et je termine avec ça. Il ne cherchait pas à profiter de l'égalité avec Dieu, de ce grand Dieu créateur. Imaginez dans la création, Jésus est là, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, en tout, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Et il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Je vais inviter Julien à s'approcher, juste Élise pour la dernière fois. Ce grand Dieu-là, les gens, peut-être quand tu regardes toute la grandeur des étoiles, des planètes, de l'univers, tu dis c'est un Dieu qui est grand. Des fois, on a l'impression qu'il est froid, impersonnel. Mais par amour pour nous, Jésus s'est fait homme. Il a marché sur cette terre. Et savez-vous quoi, quand il était sur cette terre, la Bible nous dit que lorsqu'il a marché sur la terre, ce grand Dieu créateur, mettez-vous à l'arrière de ce que je viens de vous dire, tout créateur, il a été ému de compassion. Il aurait pu rester froid, distant, il a été ému de compassion quand il a vu quelqu'un qui était malade. Il a été ému de compassion quand il a vu des hommes et des femmes qui n'avaient rien à manger. Il a multiplié, il a fait des miracles. Il a été ému de compassion quand il est arrivé à un puits. Il y avait une femme qui était à un puits, qui était là. Il est là avec elle. Elle est une Samaritaine. Il est un Juif. Sa Bible nous dit que les Samaritains et les Juifs ne parlaient pas. Tu veux juste commencer à jouer, Julien. Et mettez-vous dans l'histoire. Moi, ça m'interpelle tellement de dire, à travers ces milliards d'étoiles-là, Jésus marche sur la terre. Il parle à une femme non considérée. Une femme qui est une pécheresse. Déjà, parler à une femme à cette époque-là, c'était énorme. Une femme qui n'a pas le bon genre, elle n'a pas la bonne nationalité, elle est samaritaine. Elle n'a pas le bon style de vie. On va lui dire, va chercher ton mari. Elle va dire, j'ai pas de mari. Tu as bien fait. Tu en as cinq, celui que tu as, c'est pas lui. Dans notre société, est-ce qu'on l'aurait jugée? Elle avait tout pour être jugée. Elle avait tout pour être mise à part. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle était toute seule au puits. Puis la Bible nous dit que quand les disciples sont arrivés, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu fais à parler à une femme comme ça? Alors, je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi. Mais ce grand Dieu créateur de ces milliards et milliards et milliards et milliards et milliards d'étoiles, ce grand Dieu puissant qui peut créer Bara à partir de rien, c'est-à-dire qui crée à partir de rien, qui a mis l'ordre dans le désordre de la création, qui a mis la lumière dans l'obscurité. Il a dit que la lumière fut. Ce même Dieu-là marche sur la terre, s'adresse à une femme, il va lui dire sa vie, il ne va pas la juger, puis il va dire, si tu as soif, viens, moi j'ai de l'eau. Si tu demandes cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Puis elle a eu l'honnêteté de dire, je veux cette eau. Je veux cette eau. Vous savez, on parle des grandes évangélistes. Cette femme-là est une des premières évangélistes parce qu'elle est retournée dans sa ville. Elle a dit, venez voir un homme qui a tout raconté ma vie. Venez voir un homme qui m'a écoutée. Et ça dit qu'il y a eu un réveil à cet endroit-là. Et ce même Jésus-là est ici aujourd'hui, dans Charlevoix, ici, la Malbaie. Dans ce lieu, dans ce grand univers, il te voit, il connaît exactement ta situation. Et le but ce matin, ce n'est pas qu'on comprenne le Big Bang, pas l'hélium, les gaz, on s'en fiche. Le but ce matin, c'est de savoir, peu importe comment tu es venu, ce grand Dieu créateur le connaît ta situation, connaît ta vie, et il te dit, si tu as soif, si tu as besoin de moi dans ta vie personnelle, si tu as besoin de moi dans ton cœur, dans ton âme, dans tes anxiétés, dans tes incompréhensions, dans ton insomnie, si tu as besoin de moi dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ta maison, si tu as des défis financiers, peu importe, si tu es malade, peu importe ta condition, moi, je suis ici, dans ce lieu pour venir te toucher, te venir te visiter, venir t'inonder de ma présence. Alors, j'aimerais juste qu'on puisse prendre le temps. Vous avez été extrêmement patient. La réunion va se terminer dans quelques instants. Mais j'aimerais juste qu'on s'arrête et élever ce grand Dieu créateur-là. Et peut-être que, différemment de cette femme-là, mais tu as un besoin, tu as une soif intérieure. Peu importe ton arrière-plan, ta condition, ce que tu vis, Jésus est ici pour te donner cette eau, cette compassion, cet amour, cette guérison, cette restauration, cette paix dont tu as besoin. Alors, est-ce qu'on peut juste se lever ensemble et je vais clôturer en priant juste chacun pour vous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et chanter?